Il me reste à parler des oméga-3, qui sont dans mes poissons, qui sont dans mes noix, qui ont un rôle pour réduire l'inflammation. J'ai commencé mon exposé avec les huiles polyinsaturées, végétales, le maïs, le soya, le canola ou le colza, si vous êtes en France, qui ont des effets pour augmenter l'inflammation, parce que ce sont des oméga-6. Et là, j'ai deux acides gras essentiels, les 3 et les 6. J'ai besoin des deux. Le problème, c'est que l'alimentation qui commence aux États-Unis, qui se répand dans tout l'Occident, il y a trop de 6, pas assez de 3. Et ça m'amène à la dyslipidémie, donc mes lipides sanguins qui sont fous, mon inflammation qui augmente, parce que j'ai pas assez de 3, j'ai trop de 6. Donc, on vient de toucher deux grandes causes fondamentales. Le type d'alimentation, trop raffiné, trop glucidique, trop de farine, trop de sucre, et les mauvais gras. Pas trop de gras, les mauvais gras. Donc, les mauvais gras, les huiles oméga 6, je répète lesquelles, maïs, soya, canola ou colza, on rajoute le coton là-dedans, l'huile d'arachide, l'huile de pépins de raisin et l'huile de tournesol. Qui en soi, il n'y en a pas une qui est mauvaise, c'est juste qu'ils sont partout. Et en plus, les oméga 6, quand je les chauffe, même si je me fais dire que le point de fumée est très élevé, ils sont stables, blablabla, ce sont des molécules qui, une fois chauffées, deviennent non seulement pro-inflammatoires, mais cancérigènes. Et ça, on va revenir sur la chimie de ça, vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. On va juste regarder la quantité qu'on consomme. Ces huiles-là n'existaient pas au tournant du 19e au 20e siècle. Souvenez-vous que la maladie cardiaque aussi n'existait pas, ou virtuellement pas à cette époque-là. Et ça augmente à partir de l'entre-deux-guerres, et ça se met à monter au point où le Nord-Américain consomme 10 à 12 kilos par année de ces huiles-là. Et c'est probablement pas loin de là. Je vais vous donner un exemple d'une huile étrange qui est apparue sur nos tablettes ici au Québec et en Amérique. C'est l'huile de coton, sous le nom Crisco. Produite en 1911 par la compagnie Procter & Gamble, les deux associés, et ces gens-là ont découvert que l'huile de coton, qui est un déchet littéralement, un sous-produit de la production de coton dans le sud des États-Unis, on a ces graines-là, on ne sait pas quoi faire avec, on en a des tonnes, quelqu'un les presse, ça pue cette affaire-là, et quelque part au 19e siècle, quelqu'un découvre comment désodoriser une huile. Oh! Alors, Procter & Gamble, c'est des gens qui faisaient des savons et des chandelles. Et là, ils s'aperçoivent, on développe une technologie qui s'appelle l'hydrogénation, qui permet de prendre une huile liquide et de la faire semi-solide, comme du beurre. Ben, beau progrès technologique, ça permet de transporter ces huiles-là, puis de faire des savons, puis des chandelles. Oui, mais arrive l'ampoule électrique de Edison. Oui, le marché vient de planter. En bon entrepreneur, ces gens-là cherchent des débouchés. En 1911, combinent l'huile de coton, désodorisée, la technologie d'hydrogénation qui fait que ça ne rancit pas, c'est stable, c'est semi-solide, et ça devient Crisco. Crisco, c'est la plus belle aventure de marketing de l'histoire de l'Amérique. Tenez-vous bien, en dedans de 18 mois, ça part du premier prototype qui sort de l'usine à c'est présent dans la cuisine de toutes les cuisinières. Tout le monde embarque. La campagne de promotion est extraordinaire. Tout le monde fait « Ah, waouh, ça cuisine tellement bien, ça fond dans la poêle, c'est extraordinaire, ça fait des pâtisseries feuilletées, etc., etc., etc. » Jamais, 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 personne n'a posé la question « Est-ce que c'est bon pour la santé? » En 1930, les mêmes Procter & Gamble, qui sont riches comme ça, aucun bon sens, investissent dans American Heart Association dans le but de créer la campagne de promotion pour faire en sorte que les gens connaissent la maladie cardiaque. On voit ça souvent, hein? Des campagnes d'éducation commanditées par une association X pour une maladie machin. Ben ça, Procter & Gamble est le premier investisseur dans cette association de médecins pour la maladie cardiaque à une époque où la maladie cardiaque, on n'en parlait jamais. Mais le fameux Crisco, c'est le premier produit qui contient une molécule qui maintenant est démonisée. On parle des gras trans. Parce que l'hydrogénation d'un gras, vous créez une molécule qui n'existait pas dans la nature, qui est un gras trans. Et ce gras trans-là, il va vous bloquer les artères, affecter votre foie, augmenter l'inflammation et tout le tralala. Et ça a pris 80 ans, grâce au travail d'une chercheure qui s'appelle Mary Enig, qui est celle qui a pris son bâton de pèlerin et qui a dit à tout le monde, attention, c'est dangereux cette affaire-là, c'est dangereux, et elle a finalement gagné à l'aide d'autres chercheurs, mais ça y a pris 40 ans. Donc, entre la sortie du produit en 1911 et la conscience collective dans les années 90, l'interdiction dans les années 2000 des gras trans, ça vient d'une chercheure extraordinaire qui a pris son bâton de pèlerin et contre vents et marées s'est battue pour qu'on comprenne que Crisco et les autres gras trans, c'était mauvais. Mais entre-temps, ils ont fait des millions de dollars. Entre-temps, il y en a dans toutes les cuisines. Et ils ont subventionné American Heart Association. Alors, depuis ce temps-là, le Crisco, comme tous les gras trans étant interdits, on a changé la formule. On a créé des gras semi-solides avec une autre technologie qu'on appelle l'interestérification. C'est avec ça qu'on fait des margarines. C'est guère mieux pour la santé, mais il n'y a pas de gras trans dedans, donc maintenant c'est correct. Mais ça reste pas le shortening qu'on utilisait au 19e siècle qui était fait avec du gras de bœuf. C'est plus la même chose du tout. Alors, revenons à mes oméga-6. Les oméga-6 dans les huiles de maïs, de soya, de colza, canola, de coton, de soya, je répète, mais soya, c'est le plus utilisé, c'est des oméga-6. Et Stéphane Guyenet, un chercheur américain d'origine française, a publié un papier en 2011 où il montre la progression de la quantité ou de la proportion d'oméga-6 dans le gras des Américains. Donc, on fait une biopsie, on prend du tissu graisseux et on mesure la proportion. Dans les années 60, on était autour de 6, 7, 8 % Dans les années 2010, et ça progresse de façon linéaire, sérieusement, on est rendu autour de 22 % En sachant qu'on devrait avoir un équilibre entre les 3 et les 6, si j'ai 22 % de mon gras viscéral qui est des 6, j'ai plus de place pour les 3. Et ça, ça m'emmène un paquet de problèmes d'inflammation. Alors, pourquoi on est rendu là? Pourquoi il y a eu toute cette montée de l'industrialisation? Pourquoi Ansel Keys a eu la capacité de convaincre tout le monde que le gras n'était pas bon et que les glucides, c'est correct? Que les grains, c'est la base d'alimentation, qu'il faut manger faible en gras, que les gras saturés, c'est super dangereux, même si la preuve n'est pas là. Bien, il y a eu l'avantage d'être subventionné en douce, peut-être pas personnellement, je ne blâmerai pas l'individu, outre sa force de caractère et sa capacité de convaincre tout le monde, sur des données qui n'étaient pas tout à fait là, mais il y a eu quelqu'un qui a décidé, « Hey, c'est intéressant cette affaire-là, parce qu'en termes de business, c'est bon pour nous. » Et ce groupe-là, c'est Sugar Research Foundation, la Fondation pour la recherche sur le sucre. Vous comprenez l'euphémisme. On parle ici d'une fondation qui a comme but exclusif d'augmenter les parts de marché du sucre. En 1954, son président, Henry Haas, va faire une présentation aux technologies de la betterave. Donc, à l'époque, le sucre vient de la betterave principalement. Il va venir du maïs plus tard. Et ils arrivent, on a trouvé dans nos laboratoires la stratégie pour augmenter les parts de marché à vie. Et ça, mes amis, c'est la diète faible en gras. Ah! Alors, vous comprenez qu'il y a un lobby extraordinairement puissant qui a trouvé que les recherches de Ansel Keys et ses congénères vont dans le sens de ses intérêts commerciaux. La diète faible en gras, c'est un concept inventé dans un laboratoire. Il n'y a pas, sérieusement, pas une population sur la planète qui, dans son alimentation traditionnelle, est faible en gras. Pas une. C'est fort, là. On a inventé ça, on nous a dit que c'était bon pour nous. Et donc, depuis 1954, les travaux de tout ce monde-là, incluant l'Université de Harvard, vont aboutir au guide alimentaire, qui est fondamentalement basé sur les grains. Le pain, les pâtes, ces choses-là. Et à cette époque-là, pas de distinction grain entier. Ça va venir plus tard. Et on nous fait peur avec les gras, c'est dangereux. Pas trop de protéines aussi, ça va être dangereux pour vos reins. Ça non plus, ça ne tient pas la route. L'autre chose, on a mélangé fruits et légumes. Fruits et légumes. Le guide alimentaire des années 40 disait plusieurs portions de légumes par jour, un fruit par jour. Et là, on parle de 5 à 10 portions de fruits et légumes. J'ai rien contre les fruits, j'aime les fruits. Mais à un moment donné, c'est trop sucré. Alors, il y a quelque chose qui est perverti dans tout ce message-là. Et pour comprendre pourquoi les glucides, outre la réponse de l'insuline qui m'amène vers l'inflammation, mon syndrome métabolique que je décris depuis tantôt, on va regarder une découverte toute récente, 2008. L'intérieur des vaisseaux sanguins est tapissé par une espèce de fourrure qu'on a découvert tout récemment. Elle s'appelle le glycocalyx. Et la fonction de cette espèce de fourrure-là, de ce velours-là intérieur, c'est de s'attacher aux nutriments et aux cellules pour faire pénétrer celles qui ont besoin de pénétrer et repousser celles qui ne devraient pas passer. Alors, le glycocalyx, tout le monde en a. C'est à l'intérieur de nos vaisseaux sanguins et c'est un peu comme une espèce de petit velours qui est une épaisseur mesurable. Et ce qu'on constate, ce qu'eux ont trouvé, c'est que le glycocalyx, si je mange très riche en sucre, en glucides, en farine blanche, ben il s'aplatit. Et en dedans de 6 heures après mon repas, il est virtuellement disparu. Et que mon corps va prendre 8 à 12 heures à récupérer. Alors, si à chaque repas, j'ai trop de glucides, pas assez du reste, mon glycocalyx qui contrôle la pénétration disparaît. Et c'est là qu'on voit l'attachement ou l'adhésion des lipoprotéines sur une membrane de mes vaisseaux sanguins en mauvais état, parce qu'elle a été attaquée par trop de glucides. C'est nouveau, ça, c'est 2008.